Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, en ce temps de l'Avent, la Sainte Liturgie nous fait porter nos regards vers Saint Jean-Baptiste. Pourquoi spécialement Saint Jean-Baptiste? Eh bien, venu conquérir son royaume, le Fils de Dieu voulut qu'un homme soit là pour lui frayer la voie. Et Saint Jean-Baptiste va diviser en deux parties le peuple élu. Les Juifs qui l'écoutèrent devinrent les premiers apôtres, les premiers disciples. Les Juifs qui le méprisèrent devinrent de véritables suppôts de Satan qui, lors de la Passion, réclamèrent à grands cris la mort du Christ. 1900 ans plus tard, venu reconquérir son royaume, mis en pièces par la tiédeur des bons et l'ardeur de la franc-maçonnerie, le Christ roi envoie devant lui, pour lui préparer les cœurs, un nouveau Jean-Baptiste. Quel est-il? Quel est son message? Écoutons bien pour ne pas rejoindre le clan des pharisiens. 1907, un religieux de la congrégation des Sacrés-Cœurs s'embarque du Chili pour venir s'agenouiller au pied du chef suprême de sa congrégation, le Sacré-Cœur, à Paray-le-Monial. Frappé de neurasthénie, le père Matteo, religieux de 32 ans, ne peut plus rien faire. Le surménage l'a presque tué. Et ses supérieurs l'envoient voyager en Europe pour ne pas perdre dès l'abord ce jeune religieux. Le 24 août, il est à Paray-le-Monial. Il s'agenouille devant l'autel des apparitions, mais sans spécialement solliciter de miracle. Laissons-lui la parole. Je priais, et soudain, je sentis en moi-même comme une secousse étrange. J'étais foudroyé par un coup de grâce, à la fois très violent et infiniment doux. Je me relevais complètement guéri. Prosterné devant le sanctuaire, absorbé dans l'action de grâce, je compris ce que voulait de moi notre Seigneur. Je conçus ce soir-là le plan de reconquérir le monde, foyer par foyer, famille par famille, à l'amour du cœur de Jésus. Le soir, je rédigeais définitivement et à genoux le plan et le cérémonial de la croisade conquérante des familles que j'avais esquissé pendant mon premier séjour à Rome. Je crus alors obéir à une demande nette du cœur de Jésus. Nous avons le récit de la naissance de l'intronisation. Naissance, pas tout à fait. Le père Matteo, avant ce miracle, prêchait déjà le Sacré-Cœur. Il avait déjà consacré des familles au Sacré-Cœur, mais il n'en avait pas fait le but ultime de toute sa vie. Il tenait une université, on lui demandait régulièrement de prêcher ici et là, et c'est vrai, il consacrait aussi de temps en temps les familles au Sacré-Cœur. De ce récit, il ressort nettement que notre Seigneur Jésus-Christ va lui montrer que sa mission tout à fait spéciale va être de prêcher l'intronisation. Mais on ne s'improvise pas comme ça, prédicateur pour le monde entier, sans le nihil obstat du pape. Les évêques ne vous accepteraient pas dans leur diocèse. Alors, le père Matteo monte au Vatican. Le Saint-Pape, Pie X, le reçoit, l'écoute. La réponse tombe tranchante. Non, je ne vous le permets pas. Mais, très Saint-Père, non, je ne vous le permets pas. Et, en ouvrant ses bras, Saint-Pie X continue, je vous le commande, entendez-vous? Non seulement je vous le permets, mais je vous ordonne de donner votre vie pour cette œuvre de salut social. C'est une œuvre admirable, consacrez-y votre vie entière. C'est ce que va faire le père Matteo. Et c'est par centaines de milliers, que des familles vont faire l'intronisation, vont se consacrer au Sacré-Cœur. Et si le Concile Vatican II n'était pas venu arrêter cet élan, un grand mouvement de conversion s'était opéré dans le monde. Alors, pourquoi cet enthousiasme de la part du dernier saint, du dernier pape canonisé? La consécration des familles au Sacré-Cœur n'est-elle pas déjà connue? Monseigneur Pie n'avait-il pas déjà préconisé cette consécration des familles comme œuvre de salut social? Oui et non. Oui, c'est vrai, cette dévotion était déjà connue, prêchée, pratiquée. Mais il manquait un saint, un peu comme l'avait fait Saint Louis-Marie Grillon de Montfort pour la dévotion mariale. Il nous manquait un saint qui vienne nous montrer comment pratiquer intégralement cette dévotion et la pratiquer au quotidien, afin de lui permettre d'épanouir dans les familles, et donc dans la société, tous ses fruits de grâce. D'où le terme d'intronisation, pour marquer dès l'abord la différence avec la consécration. Alors, qu'est-ce que l'intronisation? Voici comment l'a défini le père Matteo. La reconnaissance officielle et sociale de la souveraineté du cœur de Jésus sur une famille chrétienne. Reconnaissance affirmée, rendue sensible et permanente par l'installation solennelle de l'image de ce cœur divin à la place d'honneur et par la consécration. Donc on pourrait dire qu'il s'agit de la consécration des familles au Sacré-Cœur de Jésus, pleinement comprise, premièrement, et intégralement pratiquée, deuxièmement. En quoi est-ce une œuvre de salut social? Et pourquoi la consécration des familles et pas seulement des personnes? Monseigneur Pie, le docteur de la royauté du Christ, proposait à ses fidèles, pour la reconquête de la société au Christ roi, ni plus ni moins qu'une œuvre de restauration de la vie familiale. Fonder une famille profondément chrétienne, intégralement catholique. Et pour entretenir et développer la vie chrétienne au foyer domestique, Monseigneur Pie consacrait les familles de son diocèse au Sacré-Cœur. Et c'est tout? Serait-on tenté de s'écrier. Écoutons encore le père Matteo. La famille à sanctifier est le but transcendant de tout cet apostolat de l'intronisation. Cellule sociale, elle doit être le premier trône vivant du roi d'amour. Il faut, pour arriver au règne social de Jésus-Christ, reprendre la société par la base et refaire la famille chrétienne. C'est par la famille que s'affirme et se mesure la valeur d'un peuple. C'est par Nazareth, en fondant la Sainte Famille, que le Verbe a commencé la rédemption du monde. La famille est la source de la vie, la première école de l'enfant. Si la source de la vie nationale est empoisonnée, la nation périra. Nous n'en sommes plus très loin. Ce que nous voulons, c'est inoculer dans les familles la foi et l'amour du Sacré-Cœur. Si Jésus est inoculé dans les racines, tout l'arbre sera Jésus-Christ. Les ennemis de l'Église l'ont bien compris, qui cherchent à ravir l'enfant dès son plus jeune âge, qui cherchent à introduire le monde dans les familles par tous ces moyens modernes. Donc l'intronisation bien comprise, c'est plus, bien plus qu'une simple formule de consécration et une image à la place d'honneur. Malheureusement, c'est trop souvent à cela qu'elle se résume. Et, une fois les fleurs de la cérémonie fanées, les cierges éteints, le tableau, la statue, n'est plus qu'une image pieuse, sans doute, parmi d'autres, qu'on dépoussière de temps en temps. Il y a 12 ans, un jeune garçon, l'aîné de sa famille, voyait sa famille déchirée. Une tension énorme entre son père et sa mère. On allait droit à la catastrophe. Alors, il demande à ses parents s'ils acceptent de faire l'intronisation. Les parents acceptent, plus pour faire plaisir à l'enfant. Un jour, le prêtre arrive, la statue est installée à la place d'honneur. 8 jours plus tard, c'est le déchirement, le divorce, les parents se séparent, la famille explose. Jésus, où sont vos promesses? Vous aviez promis de mettre la paix dans les familles. Alors, chers fidèles, et c'est capital de bien le comprendre, la consécration au Sacré-Cœur de Jésus n'est pas une formule magique qui donne ipso facto toutes les promesses du Sacré-Cœur. Le problème de cette famille, elle n'avait pas compris qu'elle était l'essentiel de l'intronisation. Elle ne vivait pas son intronisation. Ce n'était qu'une cérémonie, un point c'est tout. Et cela a bloqué toutes les grâces que Jésus voulait accorder à cette famille. Alors qu'est-ce que c'est véritablement que l'intronisation ? C'est notre Seigneur venant réclamer sa place au foyer, comme autrefois à Béthanie, avec Marthe, Marie-Madeleine et Lazare. Place d'honneur, il est le roi, il doit tout présider. Place intime, il est l'ami, venu réconforter et consoler. Place à lui seul réservée, il est le sauveur, le seul sauveur, capable de convertir toutes les Marie-Madeleine, de ressusciter tous les Lazares spirituels. Place familiale, il doit avoir sa place dans la famille et non pas seulement au tabernacle, une heure par semaine le dimanche. Un jour, le père Matteo prêche à Bologne. Il va terminer. Le cardinal se dresse sur son siège. « Mon père, attendez, restez là. Vous venez de nous prêcher une grande vérité et moi, cardinal de la Sainte Église, je vais y mettre le « Amen ». Puis, il se retourne vers ses fidèles. Dans les grandes fêtes, ma cathédrale et les églises de la ville sont bondées. Et je ne vois pas que la société soit plus chrétienne. Pourquoi cela ? Parce que l'on prie un moment à l'église et que revenu chez soi, on vit de la vie toute naturelle et païenne. Le foyer n'est pas, comme vous l'avez dit, un tabernacle. On ne retrouve pas Jésus au foyer. C'est cela qu'il faut changer. Vivre sous son regard d'amour, vivre pour son amour, amour auquel on soumet toute sa vie et jusque dans les moindres détails. Il doit pouvoir tout présider, tout voir, absolument tout, être présent partout. L'intronisation est donc bien à la base du combat pour le Christ roi. C'est votre contre-offensive, chers fidèles, à condition d'en vivre intégralement. Comment faire ? Il ne s'agit pas de pratiques supplémentaires. Il ne va pas s'agir de dire les litanies du Sacré-Cœur tous les jours, par exemple. Non. Il s'agit d'une nouvelle manière de vivre. Comment vivre l'intronisation ? Il s'agit pour commencer de faire l'intronisation, bien sûr. Mais pour bien la faire, il faut bien la comprendre. Et donc, il faut la préparer. Par exemple, par la lecture de Jésus, roi d'amour, le livre du Père Matteo. Ou bien encore, par la lecture de cette petite plaquette que vous retrouverez à la sortie de l'église. Cette petite plaquette qui est un condensé, le meilleur résumé de ce que c'est qu'une consécration. Une consécration, c'est un contrat. Dans un contrat, il y a deux personnes. Et les deux s'engagent. Si on ne tient pas nos engagements, Jésus n'est pas tenu de tenir les siennes. Nous lisons avec beaucoup d'amour et de reconnaissance les promesses du Sacré-Cœur et l'on pourrait s'étonner quelquefois qu'elles ne s'accomplissent pas. Lisez cette petite plaquette. Voyez ce que Jésus attend de vous. Alors c'est infaillible. Oui, les promesses du Sacré-Cœur s'accompliront. Donc, il s'agit de faire l'intronisation, puis il s'agit ensuite de ne pas l'oublier. Peut-être, dans cette assemblée, certaines familles ont déjà fait l'intronisation. Eh bien, il faut la commémorer chaque année, en fêter l'anniversaire. Il faut aussi la revivifier par la lecture régulière de certains ouvrages sur le Sacré-Cœur. Enfin, il faut en vivre. Cet hommage doit commencer une vie de foi et d'amour. Comment cela ? Eh bien, il faut considérer Jésus comme une personne vivante. Une personne vivante et vivant dans la famille. Toutes les joies, toutes les peines, les bonnes ou mauvaises nouvelles, les soucis, il faut les lui faire partager, les lui confier, lui parler de tout. Un enfant revient de l'école avec les encouragements de sa maîtresse ou de son professeur. Allez donc le féliciter devant le roi. Faut-il au contraire punir l'enfant ? Qu'il aille d'abord demander pardon au roi de l'avoir offensé. Vous revenez des vacances, mais racontez-les lui donc. Un choix se pose à vous ? Allez y réfléchir devant lui. Demandez-lui comment lui, il voit les choses. Comment lui, il désire quelque chose pour la famille. Quel est le choix que lui, il veut pour votre famille. On pourrait multiplier les exemples. Un jour, le père Matteo se fait inviter dans une famille qui a fait l'intronisation. Il rentre dans le salon, des fauteuils, un beau fauteuil. Il pense que c'est réservé au prêtre. Il va s'asseoir. Non, mon père. Le père de famille l'a arrêté. Non, mon père. Excusez-moi, ce fauteuil-là, il est pour le roi des rois, il est pour notre Seigneur. Et ce fauteuil, sur lequel personne ne s'asseyait jamais, était un indice de la présence du Christ au milieu de la famille. D'autres familles vont, lors des grandes fêtes, mettre une part du repas à part pour le donner à un pauvre au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On pourrait multiplier les exemples. C'est à chaque famille de voir comment donner à Jésus la place d'honneur dans la réalité du quotidien. Et pas simplement 5 minutes le soir pour la prière en famille, en ayant l'œil sur la montre parce qu'il faut coucher les enfants. Surtout, comprenons bien que nous accueillons notre Seigneur pour le consoler, pour le faire régner. Le consoler. Et notamment par cette vie en communion avec lui, par de nombreuses communions spirituelles, des regards d'amour vers l'image qui n'est que la représentation de sa présence, par l'heure sainte d'adoration au foyer. Le faire régner maintenant, le faire régner chez soi. Si vous avez reconnu, si vous voulez reconnaître la royauté divine du Maître, cela vous conduira logiquement, loyalement, à respecter intégralement la loi divine pour que votre foyer soit vraiment et intégralement chrétien. Ici, nous sommes trop souvent dans l'illusion, car nous sommes contaminés par le libéralisme ambiant, que nous le voulions ou non. Prenons un exemple, chers parents. Admettons que pour les vacances de Noël, vous aimeriez repeindre une pièce, la cuisine. Allez, vous appelez tous les enfants pour vous aider, et là, vous envoyez un qui arrive, toujours le même, habillé avec ses habits du dimanche, hein, avec son blazer, avec sa cravate, avec son plus beau pantalon. Bah, madame, vous allez très rapidement lui dire, va te changer, ne mets pas tes plus beaux habits. Et si vous dites, mais maman, je vous promets, je ferai très attention, je ne vais pas me tâcher. Ah, vous allez dire, mon chéri, non, va te changer. Tu peux faire très attention. De toute façon, dans une pièce qui vient entièrement d'être peinte, avec tes frères et sœurs autour de toi qui vont peindre, si, tu vas te tâcher. Là, c'est la même chose pour nous. Nous sommes dans un monde athée, dans un monde qui est contre notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pourri de libéralisme. Que nous le voulions ou non, nous sommes touchés. C'est impossible autrement. C'est mathématiquement impossible autrement. Et donc, il faut régulièrement faire un examen de conscience. Non pas pour se demander « est-ce que je suis libéral ou pas ?» mais bien plutôt pour se demander « où est-ce que je suis libéral ? Où est-ce que je me suis fait toucher cette semaine ? En quoi ai-je été touché par l'air ambiant cette semaine ?» Et voyez-vous, cet examen de conscience, il est très important, car il peut bloquer toutes les grâces du Sacré-Cœur. Le Père Matthéo, dans son livre « Jésus, roi d'amour », raconte cette histoire. Une épouse qui l'appelle un jour. « Mon père, venez vite, mon époux va mourir et il va mourir en damné. » Il refuse de voir un prêtre. Ça fait longtemps qu'il a arrêté la pratique. « Venez vite. » Le Père Matthéo arrive et là, l'épouse, très lucide, dit « Mon père, si mon mari meurt en damné, c'est ma faute. C'est ma faute. » Je vais à la messe le dimanche, oui, mais je suis mondaine. Dans mes toilettes, je suis la mode. Je sors en soirée mondaine régulièrement. Je ne pratique pas intégralement toutes les exigences de la loi du Christ. Et du coup, mon mari va mourir et se damner. J'ai bloqué les grâces du Sacré-Cœur pour lui. Mais mon père, je veux changer. À partir d'aujourd'hui, je change de vie, c'est promis. Le Père Matthéo dit, à genoux, prions. Et Jésus, qui voit les cœurs, qui voit le désir sincère de cette jeune femme de changer de vie, de se convertir de son libéralisme, va donner à profusion sa grâce. Au milieu de la prière, le malade s'agite dans la chambre à côté, il appelle. Un prêtre, vite, un prêtre avant que je ne meure. Et le Père Matthéo peut venir lui administrer les derniers sacrements. Jésus nous a prévenus dans le Saint-Évangile. Nul ne peut servir deux maîtres. Et à un autre endroit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Peut-être que notre nature, dans un premier cri, se révoltera face à ces restrictions au plaisir. Si c'est ça votre roi d'amour, et vous osez dire que son fardeau est léger et que son joug est doux, merci bien. Hélas, la vérité, c'est que depuis le péché originel, nous ne sommes plus sur cette terre pour en jouir, mais pour souffrir. Et cela même d'ailleurs si on opte pour l'enfer. Regardez le bon et le mauvais larron. Regardez le bon et le mauvais larron. Ils n'ont pas eu le choix de porter la croix ou non. Les deux ont porté la croix. Il y en a un qui s'est sauvé, un qui s'est damné. Mais les deux ont porté la croix. Le seul choix qu'il nous a laissé, comme à eux, c'est de chérir la croix, de l'accepter, ou bien de la haïr. Mais on ne peut pas l'éviter. Depuis la chute de nos premiers parents, la conformité de notre volonté à celle de Dieu pour gagner le ciel ne se fait plus dans la joie, mais dans la peine. Et lui, le roi d'amour, lui, il ne vient pas alourdir le fardeau. Bien sûr que non. Il vient nous aider à le porter. Alors plutôt que de se récrier, de se renfrogner, de se révolter face à la croix, aux exigences de la croix, mettons-nous à genoux devant notre Seigneur pour qu'il nous change, pour qu'il nous convertisse, pour qu'il ne permette pas qu'effrayés par le chemin de la croix, nous empruntions le chemin de l'enfer, en endormant notre conscience sous de faux prétextes. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas être coincé, il faut bien s'intégrer. Alors aujourd'hui, Jésus frappe à la porte de votre famille. Poursuivi par la haine insensée et gratuite de l'univers entier, il vient à vous. Le laisserez-vous dehors, sous prétexte que, depuis qu'il a été crucifié pour nous sauver, il est devenu inséparable de la croix ? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.